ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante.
Bonjour et bienvenue dans Ciné qui chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma et réciproquement. Notre programmateur musical du jour est un cinéaste, journaliste, cinéphile et mélomane français, ancien des Cahiers du cinéma et d'Arte, au joli temps de la fiction télé selon Pierre Chevalier. Il anime durant deux septennats sur Radio Nova une émission consacrée à la musique de film. Il écrit son premier scénario en 1999 pour Pierre Salvadori, puis réalise son premier court-métrage et obtient un César. En 2009, il signe Espion, son premier long-métrage. Taj Mahal suivra en 2015, ainsi qu'une série de télé. Bref, pour toutes ces bonnes raisons, et qu'il nous expliquera, il est ici chez lui. Et au cours de la promenade enchantée qu'il a préparée pour nous, on écoutera de l'air. Du Serge.
C'est le requiem.
Du Bobby.
Ouais. Et la vanille, avanille et framboise.
Bonjour Nicolas Saada. Bonjour. Et bienvenue. Refrain, couplet, action.
Laurent Delmas présente.
Ouais, moi je m'en fous, je triche.
C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson là. Les paroles sont très jolies.
Ciné qui chante sur France Inter.
Nicolas Saada, vous avez violemment réagi pendant mon introduction. Je me suis donc trompé.
Violemment, non.
Non, même si, pas, mais bien, comme il fallait.
Non, les paroles étaient nommées au César du...
Mais vous n'avez pas eu. Pardon.
Non, j'ai pas eu.
Moi,
c'était
mérité. Pas très grave, hein. Combien c'était mérité, je vous le décerne rétrospectivement.
Oh, c'est très gentil.
Pardon de cette attribution, effectivement. Il y a une question rituelle qu'on pose à nos invités, le film dans lequel ils aimeraient vivre. Moi, j'aimerais vous poser cette question un tout petit peu différente. Vous venez de publier un très très bon ouvrage de cinéma qui sont une grande série d'entretiens avec des professionnels du cinéma, alors vraiment des grands metteurs en scène, des grands musiciens, des grands chefs-op, etc. Est-ce qu'il y a un entretien que vous n'avez pas fait et que vous auriez aimé faire avec une star du cinéma mondial?
Ah, vous dire du passé carrément ou...
Les chefs, comme vous voulez, ou de maintenant, ou du passé.
J'aurais adoré interviewer Robert Bresson. On va parler de Bresson tout à l'heure. Voilà, ça c'est... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes français dans ce livre, il y a Chabrol. Mais Bresson, c'est quand même quelqu'un qui a une pensée du cinéma qui est tellement unique, et c'est un tel artiste du cinéma que c'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé.
Pas facile, hein.
Ah bah non, sûrement pas. Mais c'est ça qui est intéressant.
C'est
dans
ça.
L'entretien.
Un peu moins bavard que Chabrol, par exemple.
Voilà. Mais ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est d'essayer de construire quelque chose avec l'autre. C'est pas à vous que je vais raconter ça, mais c'est quand même de l'ordre de l'échange. Et cet échange-là, il doit être unique, différent et spécifique aux personnes qui sont l'une face à l'autre.
C'est précisément le titre de l'ouvrage, hein, Entretien et conversation avec tous ces gens-là. Et c'est aux éditions Carlotta, on le recommande chaudement, parfaite lecture d'été, de plage. On va d'entretien en entretien comme ça, et c'est très très
oui, il n'y a pas d'iconographie, il n'y a pas de photo, rien qui se met entre
exactement.
Le lecteur et la lecture et le texte. Et je voulais vraiment réunir dans un même ouvrage des entretiens que j'ai pu réaliser à l'époque des Cahiers du cinéma, de Radio Nova, pour d'autres revues aussi... et aussi les rendre disponibles parce qu'on les trouve plus, on les trouve en tout cas pas sur Internet, heureusement, je dirais en même temps. Et ça permet aux cinéphiles, aux cinéastes, aux profanes, à ceux qui aiment le cinéma, de lire comme ça la parole de cinéaste qui est quand même la plus belle, quoi, sur
absolument.
Le cinéma.
On le recommande chaudement, édition Carlotta. Votre premier choix, Nicolas Saada, nous emmène en 1972 avec un film d'Ivan Dixon. Vous nous en dites un petit peu plus, s'il vous plaît. Vous allez me dire, c'est pas le film, c'est la musique.
Complètement. Voilà, le film n'est pas inoubliable, hein, film de Ivan Dixon, s'appelle Trouble Man. C'est un film qui appartient à ce qu'on appelle la Blaxploitation.
Voilà.
C'est un cycle, je dirais, de films aux États-Unis qui a démarré... au tout début des années 70 avec Shaft, qui était un petit film produit par la MGM, réalisé par un très grand photographe, sans doute c'était un photographe avant d'être un réalisateur, Gordon Parks. Et voilà que ce film devient, à la surprise de tous, un énorme succès, et puis lance une mode de film avec des héros policiers, truands, afro-américains. Et ça va être aussi une manne pour les studios, mais aussi une source d'inspiration nouvelle pour toute la musique funk et soul. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette musique qui parlait des rapports humains, de sensualité, d'amour, commence à se poser des questions sur la situation sociale des États-Unis et s'empare de ces films pour en faire un deuxième film. Donc il y a Curtis Mayfield qui fait Superfly, et il y a Marvin Gaye qui fait un de ses plus beaux albums, qui est Trouble Man, qui est un album que je trouve somptueux, qui est à la fois un album instrumental, il y a des chansons, il y a des morceaux de Trouble Man qui ont été samplés par NTM. Et moi, c'est vrai que j'ai plutôt baigné dans la soul music, on en parlera de tout ça, mais j'ai grandi avec la soul music, j'aimais la soul music plus que le rock, parce que j'avais l'impression, mais ça c'est vraiment un point de vue d'adolescent rétrospectif, hein, que la musique rock blanche, elle incarnait une espèce d'impatience comme ça, de volonté de rencontrer l'autre, la jeune fille, la sexualité, alors qu'il y avait quelque chose dans la musique afro-américaine, dans la soul, dans la funk, j'ai toujours les Rolling Stones ont l'impression qu'ils veulent absolument faire l'amour, alors quand on écoute Marvin Gaye, on a l'impression qu'il a déjà fait l'amour. Voilà, c'est ça la grande différence entre les deux.
On écoute tout de suite Marvin Gaye.
When are we gonna see you again, baby?
I'm gonna have to think about that, girl.
Pour inaugurer la playlist de Nicolas Saada, de et par Marvin Gaye, Trouble Man. Merci pour ce premier morceau, Nicolas Saada. On va passer maintenant à des artistes français que vous connaissez, parce que vous avez travaillé avec eux.
Nicolas Godin,
oui.
C'est R. Nicolas
voilà,
Godin,
exactement.
Jean-Benoît Dinkel. J'ai travaillé avec Nicolas sur un court-métrage, sur un long-métrage, Taj Mahal. Et donc, je me suis posé la question, parce qu'on m'a demandé des chansons françaises, des chansons pas françaises.
Et oui, nous avons des contrats, nous
et
aussi.
Est-ce que cette chanson rentre dans les quotas de chansons françaises?
On ne sait pas. On n'en
parlera
c'est
pas,
vrai c'est
que, pas grave. Que la French Touch, c'est quand même très important.
Bien sûr.
C'est une génération de musiciens qui a changé la musique. Mm. Qui a fait voyager la musique française dans le monde. Ils ont assumé de chanter en anglais avec beaucoup de courage, à une époque où justement les quotas imposaient des passages de chansons françaises sur les radios. Et ils ont bravé cette loi des quotas. Et je pense que pour les cinéastes, les musiciens sont vraiment les précurseurs de quelque chose qui est en train de vous surgir, de se passer. C'est-à-dire que les musiciens, ils ont connu de plein fouet, il y a une quinzaine d'années, l'arrivée des plateformes musicales, du piratage, ils ont fait face avec beaucoup de courage à cette récession dans leur industrie qu'on a regardé dans d'autres industries de l'art avec un peu de condescendance, de paternalisme, alors qu'en fait c'est les grands artistes qui ont pris ça dans la figure les premiers quoi. Là on va passer à un morceau voilà. de la bande sonore de Virgin Suicide, c'est ça?
Exactement, mais oui, vous avez bonne mémoire sur votre propre.
je joue à celui qui pose la question.
Et
donc j'ai choisi ce morceau parce qu'en fait pour moi c'est un moment très important pour le cinéma et la musique, Virgin Suicide. Le morceau a 20 ans. Et c'est l'irruption dans le cinéma, dans la musique de quelque chose qui est complètement nouveau. D'une voix nouvelle, celle de R qui déjà faisait beaucoup de choses à l'époque, hein, celle donc de cette French Touch et puis celle de Sofia Coppola, qui est une cinéaste que je trouve très précieuse, très importante pour le cinéma d'aujourd'hui, d'hier. Elle a apporté quelque chose qui n'est pas de l'ordre de cette rhétorique qu'on a aujourd'hui sur les femmes qui font des films, les hommes qui font des films. Elle a interrogé ce qu'il y a de féminin et de masculin dans le cinéma. Et ça, c'est très important, cette question du féminin et du masculin, parce qu'elle nous concerne tous et toutes. Fatalement. Et moi, c'est un cinéma qui m'a appris quelque chose. Comment regarder l'adolescence, la jeune femme, la jeune fille, d'une autre façon, avec une délicatesse qu'on retrouve parfois chez Jane Campion, chez Varda. Et aujourd'hui, on est dans un moment où les artistes, pour s'affirmer, doivent être dans une espèce d'exercice de domination, de maîtrise, de contrôle sur le spectateur. Et ce qui est beau avec les films de Sofia Coppola, c'est qu'on est sur la délicatesse, sur la grâce, sur l'idée qu'il y a un échange possible entre un film et son spectateur. Ça, j'adore.
On écoute un petit extrait en version française d'abord, et puis la musique de fin du générique.
On a tant parlé de ces filles au long des années. Mais nous n'avons jamais trouvé la réponse. En définitive, qu'importe l'âge qu'elles avaient, qu'importe même qu'elles aient été des filles, seul compte le fait que nous les avons aimées et qu'elles n'ont pas entendu nos appels, qu'elles ne les entendent toujours pas là où elles se sont retirées pour être seules à jamais. Là où les pièces manquantes manqueront à jamais.
School lover, and you're my favorite flavor. Love is all my soul. You're my playground love.
Playground Love par R.
Ciné qui chante.
Bon, maintenant assez parlé et musique.
Sur France Inter.
Nicolas, ça a là une petite précision sur le chanteur que nous entendions
oui,
à l'instant.
Thomas Mars, qui le chanteur leader de Phoenix, qui fera aussi une carrière internationale extraordinaire après dans les années 2000, quoi. Donc vraiment, oui, la French Soul, c'est très important et ça devrait même nous faire réfléchir sur ce qu'on essaie aujourd'hui de faire dans le cinéma, quoi. Comment réfléchir à notre place dans le monde quand on fait des films.
Bon, belle interrogation, qu'on ne résoudra pas aujourd'hui à ce
moment. Sûrement pas, non,
hein,
on n'a pas
mais
le temps.
Mais enfin, elle est lancée, quoi qu'il en soit. Vous vous interrogez sur les quotas tout à l'heure, et bien là, votre prochain choix, il est français, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Serge Gainsbourg, auteur de la BO du Pacha, film de Georges Lautner en 1968, avec un gabin flic qui doit enquêter sur son copain, Ripou, flic aussi, évidemment, qui l'intitule dès le début du film « L'Empereur des cons ».
Alors je vais vous faire deux confessions. La première, c'est que c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement, une famille, on n'écoutait pas de chansons françaises. On n'écoutait que de la musique étrangère, la musique classique, mais très peu de chansons françaises, voire pas du tout. Donc la chanson française, je l'entendais, mais je l'écoutais pas. Il m'arrivait de l'entendre quand je voyais les émissions de variété de Marie-Thier et Gilbert Carpentier. C'était quand même assez atterrant, sauf quand il y avait Gainsbourg. Parce que là, il se passait quelque chose de forcément différent. Musicalement, à tous les niveaux, il se passait quelque chose de différent. Et je dois avouer que je ne suis pas non plus un exégète des films dialogués par Michel Audiard à toute cette période du cinéma français qui me passionne pas. Mais ce qui me passionne là, c'est la musique de ce film. C'est pas vraiment le film. Et Gainsbourg, c'est quand même incroyable parce que c'est quelqu'un en fait qui a toujours dit qu'il pensait que la musique était un art mineur et qui s'est posé la question de comment être majeur dans un art mineur quand on a fait le deuil du plus beau des arts qu'est la peinture. Donc moi j'aime Gainsbourg parce qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est dit qu'il fallait être dans l'excellence absolue dans un art mineur. Et là encore ça nous renvoie au cinéma, à ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma. Comment ne pas prendre en compte ce que fait Gainsbourg, c'est-à-dire que il est pour l'excellence absolue dans le cadre de quelque chose qui est a priori populaire et donc pour des gens qui n'ont pas d'exigence, ce qui est faux. Voilà, donc tout le monde a la même sensibilité, les mêmes oreilles, la même tête. Et Gainsbourg a toujours mis la barre très très haut dans ce qu'il faisait. Dans Lemon Incest, il cite Chopin. Donc pendant un été, on a tous quand même fredonné du Chopin sans s'en rendre compte. Et le Requiem pour un con, parce que maintenant on peut le dire à l'antenne, c'est quand même un morceau extraordinaire. Et c'est indicateur de quelque chose que la musique nous raconte sur l'évolution des formes. C'est-à-dire que c'est un morceau de 68. 30 ans plus tôt, en 38, c'est Trenet qui chante. Donc on voit le saut, la différence, l'évolution de la musique, des arrangements, de la conception des rythmes. Et aujourd'hui, c'est un morceau qui est toujours aussi contemporain qu'il y a 50 ans. Donc ça raconte que quelque chose plafonne dans l'histoire des formes, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la musique. Et la musique est vraiment le seul indicateur de cette histoire-là. Et bon, Gainsbourg, c'est un génie, mais au même titre, j'ai beaucoup pensé à lui après la disparition de Karl Lagerfeld, qui était aussi un artiste, par défaut. C'est-à-dire qu'il aurait voulu être un grand artiste et il s'est lancé dans un art mineur qui est la mode. Et je trouve qu'il y a quelque chose en miroir entre lui et Gainsbourg. Et c'est un morceau que je trouve absolument stupéfiant, qui a été aussi samplé par des rappeurs, par des compositeurs de musique électronique. C'est formidable, j'adore.
D'abord Gabin, ensuite Gainsbourg.
Je croyais que vous aviez démoli la Libye de Quinquin.
Oui.
Ça vous suffit pas?
Non.
Oh, Émile, c'est le mec tranquille.
Oui, je sais, on vit dans un monde tranquille. Les peaux rouges se flinquent entre eux tranquillement. Albert a été dessoudé tranquillement et ton pote Émile va braquer un train postal tranquillement. Eh ben moi, tout est père tranquille, j'en ai ras-le-fion.
Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui petit remède, ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Pour un con, quoi tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même.
C'est grâce à notre programmateur musical du jour, Nicolas Saada, que nous écoutions Serge Gainsbourg dans la BO du Pacha. La chanson s'appelle Requiem pour un con. Et nous fredonnions ensemble à l'instant dans ce studio du Dvorak, Nicolas Saada, parce que c'est un thème de Dvorak, voilà. En l'occurrence repris par Gainsbourg, et très 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 bien arrangé, il faut le dire aussi, par Michel Colombier.
C'est une période Vanier, Colombier, où les arrangeurs ont une empreinte sur ce qui se passe dans la musique à l'époque, dans la pop, dans le rock, qui est très importante.
Et je vous signale la parution chez Textuel d'une bible sur les arrangeurs, qui est un 1000 pages extraordinaire sur cette profession beaucoup trop méconnue. Nous passons maintenant à un certain film, le Taj Mahal en 2014, de Nicolas Saada, votre second long métrage pour le cinéma à ce jour.
Alors, je me suis permis de prendre un morceau tiré de la bande-son de Taj Mahal, parce que la programmatrice de l'émission, Mathilde, m'a très gentiment dit, vous pouvez aussi...
Mais il a eu raison.
Citer des morceaux des films sur lesquels vous avez travaillé. Donc,
et au contraire, ça nous intéresse bigrement justement de vous entendre là-dessus.
Bah, c'est-à-dire que la musique dans mon travail d'écriture et de réalisateur m'aide énormément.
Ouais.
Elle m'aide même à trouver des idées, à faire venir des images et même à construire des intuitions. Mmh. Et en l'occurrence, je ne trouvais pas la fin de Taj Mahal, qui est donc l'histoire de l'expérience de cette jeune femme qui traverse
un épisode terroriste, il faut dire,
pendant une attaque terroriste à Bombay.
Voilà.
Et à la fin du film, elle rentre à Paris et la jeune femme qui m'avait raconté cette expérience m'avait fait tout un résumé de tous les incidents, de toutes les réminiscences, de toutes les angoisses que j'avais suscité cette épreuve. Et je cherchais la scène, quoi. Je trouvais pas la scène. Et puis j'écoute par hasard cette chanson de Nick Drake, qui est un chanteur de folk assez culte, anglais, qui s'appelle Riverman. Et je lis les paroles. C'est très important de lire les paroles, parce que on a tendance toujours à mettre des musiques qu'on aime sans faire attention aux paroles, surtout quand c'est des musiques étrangères. Moi, je me souviens d'une publicité pour une grande marque de voiture. Ils avaient mis Walk on the White Side, alors que c'était très bien pour les plans qui long de la voiture qui longeait la route, mais dès qu'on passait dans la voiture avec toute la famille et qu'on entendait les paroles qui sont quand même d'une obscénité absolue. De Laurie, ça faisait quand même très très bizarre. Donc, dans les paroles de Riverman, au-delà de la musique, il y avait cette idée d'une jeune femme qui parle à une espèce d'oracle pour lui demander un peu quel est le sens de la vie. Et je trouvais que ça allait bien avec l'idée d'une scène de fin. Et puis j'ai trouvé cette scène de fin qui se passe dans un café, et le film se termine sur une terrasse de café vide, ce qui est un peu vertigineux quand on se dit que c'était un an avant ce qui s'est passé à Paris pendant les attentats du Bataclan. Et j'ai lu quelque part que c'était une musique qui était basée sur deux choses, la consolation et l'irrésolution, parce que musicalement le thème est irrésolu, le thème ne trouve pas de fin, c'est très savant musicalement, donc voilà, ça racontait vraiment ce que j'avais envie moi de raconter, et j'ai trouvé cette scène grâce à cette chanson, et souvent la musique m'aide à trouver des solutions de cinéma.
Introduit par Nicolas Saada lui-même, son auteur, et bien voilà le dialogue final et le générique de fin de son film Taj Mahal.
Ça va toi, sinon tu fais toujours de la photo, c'est ça?
Non, du cinéma. Je vais faire une école ici, je passe le concours.
Ah super, super dis donc.
Oui.
Bon écoute, j'ai plein de trucs à faire, en fait il va falloir que je te laisse. Ah, tu salues ton père pour moi, il va bien?
Oui, oui, ça va, ça va.
Ok. Bon ben, au revoir.
Oui, au revoir.
Bonjour madame, vous me désirez?
Je sais pas.
Un café, un thé, un jus d'orange peut-être?
Je sais pas.
Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for light and time. If he tells me all he knows about the way his river flows,
c'était la tristesse consolatoire hein, de Nick Drake, la chanson Riverman, extraite de la BO, belle BO de Taj Mahal de Nicolas Saada. C'était les images et la musique de fin. Et Dieu sait si c'est important la façon dont on quitte, nous, les spectateurs, un film et dont vous nous le faites, vous, auteur, quitter.
Moi, j'ai l'impression que j'ai fait ce film pour cette scène, en fait. Souvent, je me dis ça, c'est que je voulais absolument qu'il y ait cette scène à la fin du film et que presque tout le film allait vers cette envie de tourner cette scène. On a même tourné avec la musique sur le plateau. La musique était sur le combo, on l'entendait, toute la journée de tournage, on n'a entendu que cette musique.
Ce qui est très important, évidemment. Ouais. Mais vos producteurs ont peut-être pas été très, très contents.
C'était une longue discussion, parce que c'était une fin à la fois ouverte, ambiguë,
mais qui était en rupture avec tout
le rythme du film, et moi, je l'assume complètement.
Autre choix, mais je crois qu'alors là, il vous tient très, 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 très à cœur, Prince,
Purple Rain.
Vous nous en dites deux mots avant qu'on l'écoute.
Moi, j'ai découvert Prince complètement par hasard en 84. Je faisais des études de cinéma à New York, dans une école qui s'appelle la School of Visual Arts. Et il y a ce titre qui passe à la radio, ouais. When Doves Cry. Et à l'époque, moi, j'écoutais plutôt de la soul, du jazz. Et là, je me rends compte que ce morceau ressemble à tout et ne ressemble à rien. Et qu'il y a une personnalité derrière qui est absolument singulière. Et je commence à m'intéresser à Prince, à le voir en concert. J'ai vu, je crois, 15 ou 16 fois en concert. Et c'est une perte immense pour la musique. Je pense que ça a été le dernier grand génie vivant de la musique. Ça a été un inventeur de formes. C'est quelqu'un qui, en plus, a réfléchi au mélange, c'est-à-dire au mélange entre le blanc, le noir. Il avait des orchestres qui étaient mélangés avec des femmes, des blancs, des noirs, des afro-cubains, des afro-américains, des cubains. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi à un mélange des genres en musique. Et c'est quelqu'un qui a vraiment nous a donné de la joie, quoi. Il est mort il y a 3 ans et moi je reste absolument inconsolable de la disparition de Prince. C'était comme une espèce de repère, la sûreté d'album, les concerts. C'était une chose qui m'aidait même à vivre année après année. Je savais qu'il allait y avoir un concert de Prince ou un nouvel album de Prince. Et When Doves Cry, donc c'est le film aussi qui a fait connaître Prince, Purple Rain. C'est le film qui a été le gros succès inattendu de l'été 84. C'est l'album qui bat l'album des Jackson 5 à la surprise générale. C'est pas seulement une nouveauté dans l'histoire de la musique, c'est aussi un immense succès pour Prince qui, fort de ce succès, va faire un album juste après qui est complètement expérimental, qui s'appelle Around the World in a Day. Et il aime l'expérience, donc c'est un vrai artiste, un artiste qui veut, comme Gainsbourg d'ailleurs, il y a cette idée d'excellence et dans un art qu'on considère comme mineur. Et When Doves Cry, c'est une chanson qui est pas éloignée finalement de Playground Love ou même le Nick Drake. C'est, il y a quelque chose de l'ordre de la plainte et de la tristesse. Et c'est pour moi, c'est, alors il paraît qu'il va y avoir un biopic de Prince au cinéma.
Non, et ça, c'est, on dit aïe un peu, non?
On dit aïe parce que le problème des biopics sur les musiciens, c'est, à part Love and Mercy, le film sur les Beach Boys, c'est qu'on ne parle jamais du processus de création, quoi.
Nicolas Saada vient de nous le dire, un jour son prince est venu.
Tu as des problèmes ?
Non.
Non ? Elisa Windy Wilson. Bon, allez, ça ne fait rien. Maurice dit qu'il y a un nouveau groupe qui s'appelle Apollonia Six. Tu en as entendu parler ?
Non.
Il m'a même dit que c'était extra. Il m'a dit aussi, Billy, ses filles vont te plaire. Et ça me pose un petit problème.
De quel genre ?
Ben, j'ai trois groupes pour la soirée. J'en ai pas besoin de quatre. Ça veut dire que l'un de vous va être obligé de s'en aller. Il faut se mettre à ma place.
Grâce à Nicolas Saada, Prince, évidemment, sur la BO de Purple Rain d'Albert Magnoli en 1985. Nous remontons un peu le temps, nous sommes maintenant en 1960, avec Tiré sur le pianiste de François Truffaut, et puis cette chanson absolument culte, à vanille et framboise, de et par Bobby Lapointe, le chanteur c'est toi.
Alors, c'est vrai que, comme je le disais, j'écoute peu de chansons françaises, et j'en ai découvert par le cinéma, et par la nouvelle vague évidemment. Donc Le Grand, Colombier, on en a parlé. Mais c'est vrai que ce moment de Tirer sur le pianiste, c'est un moment tellement incroyable. Tirer sur le pianiste, c'est le deuxième film de Truffaut. On a l'impression qu'il le fait vraiment contre les 400 coups. C'est l'adaptation d'un roman de David Goudis, mais c'est quand même très libre par rapport au roman. Et puis c'est surtout, moi je dis toujours, c'est son film godardien. C'est-à-dire que c'est un film très étrange, qui est très bizarrement construit, très, très libre, qui est très morcelé, avec quelque chose, j'aime pas ce mot, mais qui est presque punk. Enfin, c'est un film très hostile, très rebelle. Et ça raconte l'autre face de François Truffaut, qui est le cinéaste français avec lequel j'entretiens une espèce de relation depuis très longtemps, parce que j'ai adoré son, on parlait des entretiens tout à l'heure, Hitchcock-Truffaut. Ça m'a marqué. C'est le livre qui m'a vraiment, donner envie de faire des films. Et Truffaut, c'est quelqu'un qui a toujours voulu parler des films des autres tout en faisant les siens, donc c'est quelqu'un de très généreux. Et puis je redécouvre ses films avec chaque fois encore plus d'émerveillement. Et Tirer sur le piano, c'est un film incroyable, de liberté, de sauvagerie, d'intelligence. C'est un film de chercheur, c'est en même temps un film de quelqu'un qui est complètement libre, qui ne se pose pas de questions sur cette idée du deuxième film. Et ce moment dans la boîte de nuit avec Charles Aznavour qui joue du piano, Bobby Lapointe qui vient chanter, c'est sidérant. Et la photo de Raoul Coutard en scope noir et blanc. Voilà, c'est un moment de cinéma sidérant. Et ça invente quelque chose qui va être après repris par d'autres cinéastes en France, par Carax, qui est l'autre grand affranchi du cinéma français. Voilà, donc ce moment-là, en plus, est propre au film, parce que la chanson, quand on l'écoute dans sa version enregistrée par Bobby Lapointe, les arrangements, tout est très décevant. Alors que ce qui est beau dans ce moment-là, c'est le côté live.
Voilà. Avanier Framboise en live, avec sur grand écran, nous on ne les aura pas, les sous-titres exigés par le producteur du film, Pierre Brandberger.
Elle s'appelait Framboise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'elle avait très peu pourtant décidé. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était dans Pim, elle a vanille, a vanille et framboise. Sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était dans Pim, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, c'est plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt fou qu'elle avalie et framboise. Sur les mamelles du destin, elle avait peu d'avantage pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'institut de bonté. Ah, ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux serres en poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Qu'elle avalie et framboise. Sont les mamelles du destin. Davantage. Puis dis-je quand elle revint avec ses serres angevins, 2 x 10. Permets donc que je lui dise cette fois de Angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une Angevine de poitrine. Moralité, Avanie et mamelle sont les framboises du destin.
Ils ont dû traverser la cour. Ils n'avaient pas l'air d'en vouloir à sa peau, non, plutôt envie de discuter, de parler affaires. Quel genre d'affaires, ça, tu t'en doutes? Chaque fois que tes frères chéris s'occupent, et le premier à se brûler, c'est ce grand imbécile de Chico. Allez, descends en marche quand il est encore temps et souhaite-lui bonne chance.
Bonne chance.
Ciné qui chante.
Alors pour l'inspiration, musique.
Sur France Inter.
Nicolas Sahala, nous en venons à Robert Bresson. Vous nous en disiez un tout petit mot en introduction. Et c'est un choix très très particulier parce qu'en plus c'est un film dont on peut pas dire qu'il soit l'un des plus connus de Bresson. 4 nuits d'un rêveur, d'après une nouvelle de Dostoïevski, qui, excusez-moi du peu, a été d'abord adapté par Visconti, puis par Bresson et récemment encore par Paul Vicali. C'est dire si ce texte intéresse les cinéastes.
C'est un récit sur la possibilité de l'amour.
C'est ça.
Sur l'idée que l'amour, ça peut se rejouer d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et sur la promesse peut-être d'un amour qui finalement, je ne vais pas divulgâcher la fin du film, mais voilà, qui est peut-être celui qu'on espérait.
Et on y entend une chanson, alors une chanson brésilienne. Vous nous en dites un peu plus sur ce
Marco Rivas. Je crois qu'il y a un lien de façon entre Bresson et la Nouvelle Vague. Je sais qu'aujourd'hui, on a envie de un peu de... de casser toutes les écoles, de dire que le cinéma français, c'est une grande histoire, qu'il n'y a pas eu d'école. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis très attaché à la Nouvelle Vague. Je pensais une école qui est liée à un moment où, effectivement, des cinéastes ont vu des films d'autres cinéastes. Bresson faisait partie de cela en France. Et cette école, elle est aussi importante que l'impressionnisme. Voilà. Bon, moi, je continue à très attaché à cette idée de la Nouvelle Vague. Et Bresson, par rapport à la Nouvelle Vague, c'est un des pères fondateurs. Et c'est quelqu'un aussi qui va s'en affranchir. Et quand il tourne en 74, 75, 4 nuits d'un rêveur.
71,
mais il fait un film libre sur la jeunesse de son temps, avec sa poésie, et en même temps, il laisse entrer dans son film des choses qui n'ont rien à voir avec son univers, en l'occurrence un musicien brésilien qui s'appelle Marc Uribas, qu'on connaît peu, qui fait partie un peu de l'après-tropicalia au Brésil. Alors c'est étrange que je voulais mettre un morceau de musique brésilienne, sans imaginer une seconde que Joël Gilberto disparaîtrait la veille de l'émission. Ouais. Donc c'est une manière aussi de parler de la musique brésilienne, qui est une musique que j'adore, qui est une musique très lettrée, très savante, et en même temps populaire. Donc ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure sur ce mélange d'exigence et d'ouverture dans les grands arts populaires, et la musique en est la preuve. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des films qui ressemblaient à des morceaux de Bossa Nova ou Serge Gainsbourg pour le grand public, ça serait formidable, mais c'est pas le cas, en tout cas en France en ce moment. Mais là, avec cette musique brésilienne, Bresson sort un peu de ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire de la musique classique, du Bach, et il laisse entrer dans son film un moment qui est poétique. Les deux amoureux longent les quais de Seine, puis ils entendent une musique, ils se penchent pour voir ce qui se passe, et il y a un bateau-mouche qui arrive, et sur ce bateau-mouche, il y a ce groupe de Marc Uribas qui joue ce morceau qui est magnifique, et c'est un moment dans ce film qui est incroyable, et moi j'ai découvert cette chanson de Marc Uribas grâce à Bresson, et j'adore l'idée que grâce à un très grand cinéaste de tradition française, j'ai pu découvrir un musicien brésilien sans baroque, voilà. Et je trouve que c'est ça le cinéma aussi, c'est ça qu'il y a de beau dans le cinéma, c'est ces mélanges-là.
Bresson plus la samba rock, ça donne ça.
Je ne vous connais pas. Asseyez-vous et racontez-moi votre histoire.
Mon histoire? Mais je n'ai pas d'histoire. Je ne vois personne, je ne parle à personne. J'habite 6 rue Antoine Dubois. Une espèce d'atelier au deuxième étage.
Par Marc Uribas, extrait de la BO de 4 nuits d'un rêveur de Robert Bresson. Il faut, hélas, clore cette programmation musicale, Nicolas Saada, et votre dernier choix s'est porté sur un groupe anglais qui s'appelle les Beatles.
Oui, je crois que c'est mon groupe préféré au monde. Et ce que j'adore dans les Beatles, c'est l'idée, effectivement, de... ils sont importants comme Chaplin est important dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'artistes de ce calibre-là dans l'histoire des arts, et ils en font partie. C'est-à-dire que leur musique, elle prend tout, elle le réinvente, mais en même temps, elle est universelle. Et quand on rentre dans le détail, elle est extrêmement savante. Et c'est ça qui me fascine chez les Beatles, c'est cette capacité qu'ils ont eu à enchaîner des tubes, à faire une musique extrêmement populaire. Et lorsqu'on commence à l'étudier, ou à, en tout cas à l'écouter dans les détails, on se rend compte qu'elle est aussi très savante. Et ça, c'est vraiment, c'est très rare. Comme quand on regarde le découpage et la mise en scène d'un film de Chaplin, c'est vraiment vertigineux ce qui se passe. On se rend compte que c'est un immense cinéaste. Donc il y a ce côté universel de leur travail qui me touche énormément, et c'est le groupe qui m'a un peu initié à la musique pop, au rock. Et j'ai choisi un extrait de j'aurais pu en choisir 1000 des morceaux des Beatles.
Oui, vraiment, enfin, une heure.
J'ai pris un morceau live tiré de Let It Be, parce qu'il y a une époque on a dit d'eux qu'ils étaient devenus des espèces de bêtes de studio, enfermés avec George Martin à faire des distraits concepts avec beaucoup de travail sur l'enregistrement, les bandes passantes, des effets sonores. Et là, c'est Let It Be, c'est un film de Michael Lindsay Hogg qui les montre en train de divorcer, en fait. C'est vraiment l'histoire d'un divorce. Oui. Mais à la toute dernière minute, il décide de faire de façon très inopinée un concert sur le toit de Abbey Road. Oui. Et ça crée des embouteillages dans Londres. Tout le monde s'arrête pour regarder ce qui se passe. La police intervient. Et c'est un très grand moment de cinéma, filmé par Michael Lindsay Hogg. C'est un moment de cinéma unique. On se croirait dans un documentaire de Fred Wiseman. D'un seul coup, le monde s'arrête parce que les Beatles chantent sur un toit. Et cette chanson, elle est nue. Il n'y a pas d'arrangement de George Martin. C'est juste leurs quatre voix. Et on se rend compte, en écoutant ce morceau, que, avec ou sans arrangement, la pureté de leur mélodie, la pureté de leur musique, elle vieillira jamais. Et les Beatles, pour moi, c'est des héros. et je les adore. J'associe toujours cette chanson à cette image de ces quatre chanteurs sur un toit dans un froid polaire qui décident d'offrir au monde leur musique.
C'est ce qu'on écoutait chez vous, les Beatles?
Ouais, tout le temps.
Donc c'est aussi vos souvenirs d'enfance.
Il y avait ma grande sœur aussi qui écoutait beaucoup de musique. Ça allait de Bob Marley à Lou Reed, David Bowie. Mais moi, les Beatles, c'était vraiment mon truc. Ouais.
Allez, on les écoute tout de suite.
Well, all these years I've been wandering around.
Nicolas Sada, voilà quand même quatre garçons dans le vent que vous auriez peut-être aimé interviewer.
Oui.
Et alors
Paul, et oui. Paul est toujours vivant. Donc
oui, bon, ça sera peut-être un jour.
Ah oui, ça sera un rêve de rencontrer Paul McCartney.
Vous feriez un appendice à votre
Une mise à jour avec d'autres entretiens, ça serait formidable de faire ça.
On rappelle que donc l'ouvrage est publié par Carlotta, et que vous y faites recension en quelque sorte de beaucoup d'entretiens que vous avez eu avec énormément de cinéastes. Vous disiez que vous vous placiez dans l'affiliation du Hitchcock Truffaut.
Ah, je vais pas me placer dans l'affiliation Hitchcock Truffaut parce que c'est un livre monumental quand même. Et c'est un livre qui est en plus le fruit d'un travail très précis. Je crois qu'avait accordé vraiment du temps à Truffaut. Ils sont vus très longtemps. J'adorerais faire un travail comme ça, juste avec un cinéaste, de couvrir toute son œuvre et de passer du temps avec lui. Mais j'avais envie de mettre en avant la parole de ceux qui font les films, parce qu'elle nous éclaire tout autant que d'autres. Et en plus, le travail, c'est très très intéressant, parce que ça aide à comprendre aussi ce qu'on regarde. Moi, en tout cas, comme cinéaste, ça m'aide. Leurs paroles m'aident, elles m'inspirent, mais aussi elles m'aident aussi à avancer sur des questions de cinéma.
Merci beaucoup, Nicolas Sada. Je rappelle que votre ouvrage est publié aux éditions Carlotta. Et merci surtout d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale. Cette émission a été parfaitement et patiemment préparée par Mathilde Verfaillie et Margot Page. Et avec l'appui sans faille d'Hilario Mathias d'Acosta, elle a été merveilleusement réalisée par Sonia Leglen, avec à ses côtés aujourd'hui Elisabeth Collet. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note. Et puis on reste en contact via le podcast et franceinter.fr, assurément. Alors, rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec un nouvel invité. D'accord, ça oui, mais alors qui? Quel invité? Indice sonore.
De nuit, je parle. Je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles.
Et oui, notre invité sera un chanteur, vous l'aurez deviné.